Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
En France, le pic de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19 semble derrière nous, a déclaré récemment le Premier ministre français Jean Castex. Cependant, la situation de l'épidémie en France reste très préoccupante selon les professionnels de santé, malgré l'accélération de la campagne de vaccination. En chiffres, les chiffres justement en effet de Santé publique France montrent une épidémie encore très forte, malgré une stabilisation sur un plateau élevé à l'hôpital.
Et sur le continent africain, le continent résiste à la pandémie de Covid-19. L'épidémie en Afrique ne se comporte pas comme dans le reste du monde. Les chiffres des contaminations et de la mortalité sont très inférieurs à ceux de l'Europe et de l'Amérique du Nord. L'Organisation mondiale de la santé avance un chiffre de 77 000 morts sur le continent depuis le début de l'épidémie.
Nous en parlons donc avec nos invités, Sophie Fégueux, médecin infectiologue, chargée d'expertise et de projets sur les risques infectieux à Santé publique France. Merci de nous rejoindre avec nous, le docteur Sayavé Gnoumou. Il est chirurgien, expert de l'Union africaine en télémédecine et président du conseil médical de la société Nazunki qui s'occupe de la prise en charge médicale à l'international. Et nous rejoint en duplex d'Abidjan, le docteur Anno Marin, les médecins et directeurs de l'espace médical La Pyramide, basé à Abidjan. Alors on va commencer avec vous, Sophie Fégueux. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Sophie Fégueux. Le Premier ministre Jean Castex a déclaré que le pic de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19 semble derrière nous, mais le nombre de malades de la Covid en réanimation est repassé au-dessus des 6 000. Est-il trop optimiste ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une amélioration de la situation. On voit que le nombre de nouveaux cas diminue. Maintenant, il est en dessous de 30 000 par jour, alors qu'il était à plus de 40 000. Donc, ça reste quand même encore important, mais il y a une baisse quand même déjà nette. Et puis, on commence à voir quand même les résultats sur les admissions à l'hôpital. C'est passé en dessous de 30 000. Et même sur la réanimation, où là, c'est redescendu en dessous de 6 000. Mais comme vous l'avez dit, ça reste quand même des chiffres encore très importants. Donc, ça montre qu'il faut poursuivre les efforts. Hein. Les gens font beaucoup d'efforts. Il faut continuer et il faut se vacciner aussi. Donc, on est dans une situation un peu meilleure, mais ça reste à un niveau quand même toujours très élevé.
Sophie Fégueux, il y a eu une rentrée scolaire en début de semaine. Alors, les autorités parlent de réouverture prochaine à la mi-mai de terrasses et de certains commerces. Est-ce qu'il y a quand même un décalage entre la situation de l'épidémie qui reste élevée en France, hein, et la volonté de lever ces restrictions ?
Alors d'abord, on espère que la baisse là qu'on voit va continuer, que les gens vont continuer donc à faire des efforts. Et après, c'est toujours compliqué parce que les gens ont envie de reprendre une vie un peu plus normale. Donc on est toujours effectivement à gérer entre le fait qu'il faut que l'épidémie continue à baisser et la possibilité de lever certaines restrictions. Donc je pense que ça se regarde chaque semaine, les chiffres sont regardés, on regarde si ça continue à baisser ou pas, mais c'est vrai que ça n'est pas simple.
Alors Sophie Fégueux, on évoque, hein, on vient de le dire, le chiffre de 6 000 personnes en réanimation. Alors quels sont les profils des malades aujourd'hui qui se trouvent en réanimation ?
Alors, ce qu'on peut dire, ça dépend un peu des endroits, mais par exemple, il y a des réanimateurs en Seine-Saint-Denis qui ont noté qu'ils ont des patients plus jeunes, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, donc plus jeunes que ce qu'il y avait, par exemple, lors de la première vague. C'est des gens qui ont tendance à rester longtemps, peut-être parce qu'ils sont plus jeunes aussi. Il y a toujours beaucoup, par exemple, de personnes obèses, hein. L'obésité, c'est un problème important, c'est un gros risque. Donc, en tout cas, globalement, on a l'impression que c'est quand même des gens plus jeunes, parce que peut-être aussi parce que les gens plus âgés se sont fait vacciner et sont très prudents.
Mmh. Docteur Sayavé Gnoumou, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être présent sur notre plateau ce matin. Alors, quel regard portez-vous sur la situation de l'épidémie de Covid-19 en France actuellement ?
Alors, le regard qu'on peut porter sur la situation en France, c'est pas, il faudrait pas l'isoler, c'est-à-dire isoler la France et puis prendre son cas comme étant une île. La France faisant partie de ce monde actuellement, donc il faut prendre la situation globalement, c'est-à-dire au niveau mondial, qu'est-ce qui se passe. Et par rapport à ça, maintenant, ce qui se passe en France, et on a l'impression même que la France s'en sort un peu mieux que certaines autres contrées et même certaines parties de l'Europe. Donc c'est une situation difficile. J'aimerais pas être à la place des décideurs parce que on est dans une situation inconnue que personne n'avait prévue, que personne ne pouvait prévoir. Donc c'est difficile de réagir dans des situations comme ça.
Alors docteur Savignoumou, est-ce que l'annonce d'une levée de certaines restrictions, on vient d'en parler, vous inquiète étant donné la situation de l'épidémie à l'heure actuelle?
Non, elle ne m'inquiète pas particulièrement, mais nous sommes dans une situation de pandémie et avec un virus qu'on ne connaît pas trop, donc on ne doit pas baisser les gardes. On doit rester en garde, mais on a des éléments à suivre, c'est-à-dire ce qu'on appelle des critères d'évaluation qu'on suit. Et quand ces critères-là ont tendance à baisser, comme on l'a montré, ma collègue Sophie l'a dit tout à l'heure, à ce moment, on lève également un peu les mesures pour permettre de soulager les gens qui sont extrêmement exténués et à bout.
Docteur Gnoumou, le président Emmanuel Macron a laissé entendre cette semaine un assouplissement du couvre-feu. Est-ce que ce serait risqué, selon vous, d'assouplir le couvre-feu?
Alors, actuellement, il est difficile de dire qu'est-ce qui est risqué et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous voyez, par exemple, l'Angleterre, il y a eu énormément de vaccinations. Ils se sont rendus compte qu'il y a des gens vaccinés qui se recontaminent. Mais le lieu de contamination se retrouve être la maison. C'est pas dehors.
Ouais.
Donc, alors, qui sait exactement ce qu'il faut faire? Donc, c'est pour ça que je pense que quand les indicateurs indiquent qu'on peut éventuellement lever le couvre-feu ou qu'on peut relâcher, il faut le faire parce qu'il y a la dépression complète des populations et de l'économie des pays. Et c'est peut-être une autre maladie qui peut même être plus grave que celle qu'on vit actuellement.
Docteur Sophie Figuel, la Haute Autorité de Santé autorise les tests antigéniques et les autotests au moins de 15 ans, ce qui permettrait d'augmenter sensiblement la facilité et la capacité de dépistage de la Covid-19, notamment dans les écoles. Alors, est-ce que les autotests sont réellement efficaces?
Alors, les autotests, oui, c'est efficace, comme vous dites, vous l'avez dit, la Haute Autorité les a validés. Alors, l'utilisation qu'on en fait en France, en fait, c'est pour le dépistage de gens qui n'ont pas de symptômes. Et donc, dans ces cas-là, on retrouve les gens positifs dans plus de 50% des cas. Et en fait, c'est intéressant si on le fait très régulièrement, parce que si on le fait juste une fois, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut, c'est le faire au moins une fois par semaine, voire deux fois par semaine. Et donc, les études montrent que dans ce cas-là, quand on le répète sur des populations importantes, par exemple à l'école, au lycée, dans les études supérieures, ça peut permettre donc de repérer donc plus de 50% des gens qui seront contaminés. Donc on peut avoir une très bonne efficacité si les gens acceptent de le faire et le font très régulièrement.
Alors nous allons à Abidjan, Côte d'Ivoire, retrouver le docteur Anou Marin. Docteur, bonjour.
Bonjour Nadie.
Bonjour, merci d'être présent ce matin. Rappelons que vous êtes médecin basé à Abidjan et directeur de l'espace médical La Pyramide à Abidjan. Est-ce que le continent africain résiste toujours mieux selon vous à la pandémie?
Évidemment, on dirait oui, vu les chiffres que vous aviez donnés en introduction. Et il y a une bonne résistance, un bon comportement sur le continent africain, mais n'oublions pas qu'il y a des pays, qu'il y a des zones où quand même on a des forts taux d'endémicité.
Et justement, quelle est la situation de l'épidémie en Côte d'Ivoire?
Alors, en Côte d'Ivoire, après les premiers mois de l'année où est-ce que nous avions craint le pire, actuellement, nous sentons que la situation semble beaucoup plus favorable. En matière de chiffres, nous dirons que nous avions près de 46 000 cas confirmés environ aujourd'hui. Nous avions près de 45 500 guéris. Nous avions aujourd'hui des taux de 1,7% tout autour de 2, alors qu'il n'y a pas très longtemps, nous étions autour de 19% des personnes prélevées. Nous avons toujours moins de décès, nous avons assez de personnes guéries.
Quel est le profil aujourd'hui des malades en Côte d'Ivoire, docteur Anou Marin?
Alors, aujourd'hui, nous avions tous les âges, parce que nous avons vu des écoles qui ont été fermées, parce qu'il y a eu des cas d'enfants en âge scolaire qui ont été contaminés et infectés. Nous avions les personnes âgées, nous avions les cas graves au niveau des personnes qui ayant des facteurs de comorbidité. C'est parmi ces personnes-là qu'on retrouve les décès. Chez les jeunes, c'est beaucoup des cas symptomatiques, mais nous avions quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de toutes les tranches d'âge des personnes asymptomatiques, mais qui sont découvertes après un test PCR positif.
Docteur Anou Marin, est-ce que les variants ont pris le dessus sur le premier virus, comme on l'observe en Europe?
Alors, faut dire que cette maladie est à transmission interhumaine. Tant qu'il y aura des mouvements de population qui viendront des autres pays vers nos pays, on pourrait dire qu'il y a de ces variantes-là, on pourrait les rencontrer en Côte d'Ivoire. Mmh. Mais dire que ces variantes-là ont pris le dessus sur les formes souches, je n'oserais pas me prononcer avec certitude, mais je pense que on pourrait en avoir quand même des cas de variantes vu le mouvement de population.
Docteur Sayavé, nous concernant la situation de la pandémie sur le continent africain, quel est votre regard? Et le docteur Anomarin parlait des variants. Mm-hmm. Est-ce que ce qui se passe en Inde, où on voit une multiplication des cas et des décès, ce qui se passe en Inde peut arriver en Afrique subsaharienne?
Ah oui, il ne faut pas penser que l'Afrique subsaharienne est une île isolée. Lorsque ça arrive en Inde, ça peut arriver le lendemain à Abidjan, par exemple. Donc on n'est pas isolé, ça peut arriver. Mais la situation est telle qu'il y a énormément de facteurs qui font que l'Afrique apparemment résiste, c'est multifactoriel. Il y a beaucoup d'événements qui font ça.
Le continent africain se distingue toujours par rapport à la première vague, la deuxième vague, les troisièmes vagues de la pandémie sur le continent européen. Le continent africain résiste toujours mieux par rapport aux autres.
Jusqu'aujourd'hui, qu'elle ce soit la première, la deuxième ou la troisième vague, le continent a énormément résisté. Et cela peut s'expliquer de différentes manières. En réalité, quand vous prenez l'Afrique, nous avons une vie un peu plus extériorisé. C'est-à-dire, même le soir à 19h, vous allez chez les gens, ils sont assis sur la terrasse. Ils ne sont pas à l'intérieur de la maison enfermés. Ils rentrent pour se coucher, pour manger ou autre chose. Deuxièmement, il y a d'autres facteurs, c'est que l'Afrique n'a pas suivi les mesures internationales qui ont été données, c'est-à-dire les Africains traitent, en particulier toute l'Afrique subsaharienne. Que vous prenez le Sénégal, le Burkina, Mali, Côte d'Ivoire et autres, tout ça, les gens qui sont malades sont traités. Avec des protocoles différents protocoles qu'ils ont, qu'ils surveillent, mais ils traitent. Est-ce que ça a un effet d'affaiblir éventuellement le virus? On n'en sait rien, mais on aura les résultats dans quelques années, dans quelques instants.
Docteur Sayavé Gnoumou, alors faut-il craindre une hausse de cas dans plusieurs pays où l'on pratique le ramadan? Vous disiez que c'est au sein des maisons que le virus se propage, à l'occasion notamment des repas que l'on partage. Est-ce que vous craignez une hausse dans cette situation?
Oui, il faut rester vigilant. Mais il y a aussi un phénomène qu'il faut retenir. Je ne sais pas si vous vous rappelez du pèlerinage au Sénégal. Des mourides.
Oui.
Plus de 3 millions de personnes, on avait paniqué en se disant qu'il va y avoir une recrudescence de ces pathologies-là. Mais après ce pèlerinage-là qui a duré 2 ou 3 jours, je crois, il n'y a pas eu énormément de sursauts de cas. Et pendant les 10 jours qui suivaient, qui sont les jours où on pensait que ça allait monter en flamme, ce n'est pas monté. C'est resté là, il y a eu quelques soubresauts, mais on n'a pas eu d'explosion comme on l'attendait. Donc, bien sûr, il faut conseiller les gens, il faut donner les indications aux gens, les mesures de prudence qu'il faut avoir. Mais on ne peut pas, par exemple, aller jusqu'à dire non, il ne faut pas le faire. Donc, je pense qu'il faut rester vigilant, comme à tout moment, avoir des sentinelles qui nous alertent et pouvoir prendre les actions qu'il faut quand il faut.
On a parlé des variants qui se développent, et en France, le Premier ministre Jean Castex a déclaré il y a une semaine que les variants dits brésiliens et sud-africains avaient tendance à régresser sur le territoire français, mais selon plusieurs scientifiques, ce n'est pas le cas. Ils sont même en augmentation en Île-de-France, selon Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, que l'on écoute.
Malheureusement, les variants, pour moi, ce que je connais au niveau de la région parisienne, si vous voulez, c'est environ 10% quand même, donc c'est assez nombreux. Tous les variants, disons, qu'on appelle of concern, c'est-à-dire auxquels il faut faire attention, ces variants-là, c'est-à-dire le variant brésilien, le variant sud-africain, et puis les variants qui ont acquis certaines mutations à risque, on peut être inquiet parce que c'est des variants qui sont susceptibles de contourner justement l'immunité qu'elle a été acquise naturellement ou qu'elle a été acquise par certains vaccins, pas par tous les vaccins, par certains vaccins. Et la question clé aujourd'hui, c'est on va se réinfecter, oui, c'est probable, à cause des variants, mais est-ce que cette réinfection sera grave ou est-ce qu'elle, au contraire, elle sera pas très grave, elle permettra encore de renforcer l'immunité? Ben voilà, moi j'ai plutôt une envie d'être optimiste et de me dire que ça ne sera pas grave et ça renforcera progressivement notre immunité, et à un moment, notre immunité sera suffisamment solide et le virus glissera sur nous.
Le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Docteur Sophie Fégueux, le variant brésilien sud-africain représente 10% en région parisienne selon Éric Combe. Alors est-ce qu'en effet ces variants sont bien présents et peuvent se développer encore plus selon vous ?
Alors, si on prend la France métropolitaine, en gros, il y a maintenant c'est le variant anglais, hein, ce qu'on appelle le V1, qui a pris la grande majorité, donc 83%. Il reste le virus d'origine, hein, qui est arrivé de Chine, donc qui est à peu près 12%. Et les variants sud-africains et brésiliens, c'est à peu près 5%. Donc c'est un chiffre en fait qui est stable, qui bon ça augmente pas vraiment. Alors la situation est différente dans les DOM, puisque on sait qu'en Guyane, là c'est le variant brésilien qui est le plus fort, et à La Réunion et à Mayotte, c'est le variant sud-africain. Mais pour la métropole, donc on voit que c'est vraiment le variant anglais qui est le plus fort. Alors après, il y a des différences effectivement suivant les départements et les régions. Dans la région, en Île-de-France, c'est surtout le variant sud-africain en fait qui est à peu près 9,5%. Là, ça ne semble pas vraiment augmenter ces jours derniers. Donc on n'a pas l'impression que ça va prendre le dessus. Pour l'instant, c'est vraiment le variant anglais qui est le plus important. Maintenant, comme le disait le professeur Combe, on ne sait pas ce qui va se passer dans un mois, deux mois, trois mois. On voit bien que le variant anglais, il est arrivé et puis il s'est répandu rapidement. Donc pour l'instant, c'est lui qui tient le terrain. Mais est-ce que dans deux, trois mois, il n'y aura pas un autre variant ? On ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un certain nombre de mesures qui ont été prises aux frontières vis-à-vis de certains pays, que ce soit l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, parce qu'on veut éviter l'entrée de quantités importantes de variants, en fait.
Justement, Sophie Fégueux, est-ce que ces mesures sont suffisantes pour éviter l'augmentation des cas de variants type sud-africain, brésilien et indien ? On a l'impression que comme le variant anglais, la progression est inéluctable.
En tout cas, quand il y a un variant se développe, on a vu avec le variant anglais que c'est assez rapide. Donc les variants qui sont là depuis plusieurs mois et qui finalement restent à leur niveau, enfin pour l'instant, mais ce virus on connaît pas très bien, bien sûr. Pour l'instant, on a l'impression que c'est pas eux qui vont prendre le dessus, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois précédents. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de limiter les risques, mais voilà, on fait au mieux de ce qui est possible. Et on va voir et on surveille. Donc en France, maintenant, on surveille beaucoup régulièrement l'état, justement, des variants. Hein. Chaque semaine, Santé publique France sort les données. Donc on surveille de très près, et département par département, ce qui se passe. Bon, pour l'instant, on est dans une situation assez stable.
Hein. Docteur Sophie Fégueux, quelle est la différence entre ces deux variants, le brésilien et le sud-africain ?
Alors, c'est des variants qui ont des mutations, hein, des changements particuliers sur la protéine S. Il y en a certaines qui sont les mêmes, et puis il y en a d'autres qui sont différentes. Alors, quand on fait les tests, les gens qui font des tests et qui sont revenus positifs, ils verront peut-être que sur leurs résultats, c'est à peu près dans la moitié des cas on le fait, c'est des tests de criblage, on leur dira variant sud-africain ou brésilien, parce que le test de dépistage, il ne fait pas la différence entre les deux. Par contre, nous, à Santé publique France, on fait des enquêtes flash avec des séquençages qui permettent de faire la différence, parce que c'est quand même pas toutes les mêmes mutations, et du coup c'est comme ça qu'on sait comment toutes ces mutations sont réparties en France. On fait ça, c'est fait très régulièrement.
Alors docteur Sayavé Gnoumou, hein, c'est vrai qu'on parle de plus en plus, hein, du variant anglais. Est-il selon vous plus dangereux que les autres, hein, que l'on a cité? Le variant anglais semble encore plus agressif, touchant des jeunes, parfois des enfants.
Alors, actuellement, il est difficile de dire si lequel des variants est plus dangereux que l'autre. Les études sont en cours. On sait que le variant anglais, effectivement, il y a des cas d'hospitalisation. Il y a beaucoup plus, un peu plus de cas d'hospitalisation. Mais le cas brésilien aussi, lui aussi, il s'avère être beaucoup plus, encore plus dangereux dans certaines régions. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a des régions où, en fait, le virus, quand il mute et qu'il prend la place, plus il est fort, plus il devient fort. Donc s'il arrive et qu'il arrive à se passer, à éliminer les autres virus et à prendre le dessus, ben on va se retrouver avec des cas de plus en plus nombreux et des cas de plus en plus difficiles à traiter.
Sophie Fégueux, est-ce que plus la vaccination va s'accélérer, plus il faut s'attendre à l'apparition de nouveaux variants encore plus résistants à la vaccination ?
Alors en fait, c'est le contraire. ça, c'est-à-dire que si le virus circule beaucoup et qu'il n'y a pas beaucoup de vaccination, c'est là qu'il y a beaucoup de variants qui sortent. Donc ils viennent de pays, ils viennent souvent de pays où il y a pas beaucoup de vaccination et par contre le virus circule beaucoup. Donc on peut espérer que plus les gens se feront vacciner et plus ils feront attention et donc le virus circulera moins. Moins on aura de variants. Mais les variants, comme vous l'avez dit, souvent ils viendront plutôt de pays où il n'y aura pas justement ce niveau de vaccination et ce niveau de mesures prises par tous.
Toujours sur la vaccination, mais sur le continent africain, docteur Anoumara, alors comment se déroule la campagne de vaccination en Côte d'Ivoire ?
En Côte d'Ivoire, ça se déroule bien. Il y a eu d'abord les premières phases où c'était les corps de métier et les tranches d'âge. Aujourd'hui, c'est toute la population. Nous sommes sortis des zones urbaines, nous allons vers les zones rurales et puis par secteur d'entreprise, de corps de métier. Donc aujourd'hui, il y a eu une campagne sur tout le territoire national pour cette vaccination. Nous avons atteint les chiffres de plus de 150 000 personnes vaccinées. Donc, sur les estimations, nous avions eu 500 000 doses, si je ne me trompe pas. Donc, nous avions déjà près de la moitié. Nous tendons vers les 200 doses utilisées. Nous pensons qu'il y a encore des cas de déni, il y a encore des cas de réticence, même au niveau des professionnels de la santé, de toutes les... C'est ce qui rend un peu difficile cette campagne de vaccination.
Alors justement, à propos des réticences, on parle beaucoup du vaccin AstraZeneca qui est très critiqué, hein, même sur le continent africain. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire ? Quelle est l'image du vaccin AstraZeneca sur place ?
Alors, en Côte d'Ivoire, c'est le seul vaccin que nous avions. Nous n'avions pas de choix. Moi, personnellement, tout autour de moi, ceux qui se sont fait vacciner ont eu quelques effets indésirables, mais après, c'est passé. J'ai pas eu connaissance de cas graves. Il y a des personnes qui, effectivement, avaient été malades, ne le sachant pas, se sont fait vacciner. Donc, est-ce qu'on peut mettre en cause la vaccination ? C'est les spécialistes qui nous le diront. C'est la même image quand on échange avec les gens, que ce soit AstraZeneca, Sanofi, les vaccins américains. Il y a des gens qui sont systématiquement opposés parce qu'aujourd'hui, grâce aux médias, grâce à certains facteurs, les gens sont de plus en plus informés. Ils savent qu'il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3, il y a la durée. Donc, ils ont des arguments, puisque tout le monde en parle, tout se dit, des vérités contre des contre-vérités. Donc, aujourd'hui, c'est de manière générale tous les vaccins qui sont plus ou moins indexés pour ceux qui sont encore dans le déni et qui ne veulent pas se faire vacciner.
Docteur Salavé Gnoumou, l'Union africaine a organisé un sommet récemment consacré à la production de vaccins sur le continent. Les Africains ne représentent que 2% de la population vaccinée contre la Covid-19 dans le monde, selon l'OMS, qui s'inquiète des problèmes de pénurie de financement et d'un manque de personnel qualifié. Alors, partagez-vous ce constat ?
Alors, ça fait longtemps qu'on fait beaucoup de constats. On a fait des constats au niveau de la santé, ce qui va, ce qui ne va pas, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, en Afrique, actuellement, quand ils parlent de 2%, c'est quelque chose qui est vrai. Il n'y a pas beaucoup de vaccinations qui se font. Mais quand on prend aussi les causes essentielles, les vaccins, il n'y en a pas. Même en Occident, il en manquait. La France avait des problèmes d'approvisionnement. Beaucoup de pays en avaient. Donc l'Afrique aussi en avait. Deuxièmement, les vaccins, la façon dont ça a été fait, il y a des pays qui ont injecté des milliards pour qu'on produise et qu'ils soient prioritaires. Ben, l'Afrique n'a pas injecté de milliards pour ça. Et troisièmement, quand vous prenez les vaccins, vous arrivez en Afrique, il y a des endroits où il y a les vaccins. Comme il a dit, en Côte d'Ivoire, ils ont les vaccins. Mais les gens ne vont pas. Il y a beaucoup d'endroits où les gens ne vont pas. Parce qu'il y en a qui vous posent la question, mais est-ce que c'est plus dangereux que le palu ? Pourquoi vous ne me vaccinez pas contre le palu ? Vous voulez me vacciner contre ça ? Il y a d'autres qui ont des arguments. Deuxièmement, la communication au niveau mondial a été catastrophique. Elle a créé une situation où, par exemple, au niveau les Africains pensent que les vaccins, c'est plutôt dirigé contre eux. Parce qu'on a expliqué qu'il y avait des vaccins produits exclusivement pour les Africains, sans expliquer pourquoi. Il y avait des problèmes de financement, des problèmes où des gens ont mis de l'argent pour ça, sans expliquer. Donc du coup, au niveau de la population, qui n'est pas très... quand on sort du monde, du milieu, de la grande ville et autres, les autres populations sont convaincues que c'est un complot. Et donc, ils ne vont pas se vacciner. Il y a énormément d'endroits comme ça où ça se passe et c'est un, ça explique qu'il y a 2%. Sur le financement, il faudrait que chaque État prenne les choses en main. Ce n'est ne pas attendre qu'on décide que voilà, et on va vous donner des vaccins, prenez et vaccinez-vous. Vous devez prendre les devants. Et je ne comprends pas que jusqu'à aujourd'hui, il n'y ait pas en Afrique un laboratoire de production de vaccins. Mmh. Pourquoi ? Il y a des pays qui, eux, à eux seuls, se suffisent. Leur laboratoire suffit à leur population. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Et l'Afrique a des leçons à donner. On a des chercheurs, on a des scientifiques. La preuve, c'est que je pense que le fait qu'il n'y ait pas ce trop de vagues de cas de Covid, je pense que c'est aussi lié à l'action des professionnels sur place. Mmh. Il ne faut pas le négliger. Ils ont dû prendre, parce qu'on est habitué aux pandémies, ils ont dû prendre les mesures qu'il faut. Et ils ont des leçons à donner, il faut les écouter.
Le Soudan du Sud envisage de se débarrasser de 60 000 doses du vaccin AstraZeneca reçu en don, dont la date limite d'utilisation a expiré avant qu'elle soit utilisée. Comment expliquez-vous qu'on en vienne à se débarrasser de doses est-ce dû à l'image controversée d'AstraZeneca dont on a parlé ou à une réticence des populations à la vaccination ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais hein, le facteur le plus objectif sur lequel on peut se baser, comment se fait-il que ces vaccins arrivent périmés ? C'est la question fondamentale. Comment se fait-il que ça arrive périmé ? Et un vaccin périmé, faut-il le donner ? On ne va pas administrer un vaccin périmé. Donc, si c'est périmé, effectivement, comme ils le disent, il n'y a aucune raison de les utiliser. Et il faut remonter la chaîne pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que c'était périmé qu'on a donné ? Ou bien alors, on a donné parce qu'on n'en avait pas besoin.
Pour le cas du Soudan du Sud, on ne sait pas hein, si les vaccins étaient périmés. En tout cas, ils sont arrivés à date limite d'expiration.
Date limite d'expiration. Donc, si c'est arrivé la date limite d'expiration, ça veut dire que c'est périmé. Bon, non.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Normalement, un vaccin, il ne peut pas arriver après sa date limite d'expiration. Si on sait qu'il va arriver après, on ne l'envoie pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est parti parce que c'était périmé ? Mais dans tous les cas, si ça arrive après expiration, ce n'est pas la peine de l'utiliser.
Docteur Sophie Figueux, les autorités annoncent l'arrivée d'un autre vaccin, Janssen, à dose unique. Quelle est sa particularité par rapport aux autres ?
Alors le vaccin Janssen, ça y est, il est arrivé. Donc les injections ont commencé samedi dernier. Alors c'est un vaccin qui est un vaccin à adénovirus, qui est réservé aux plus de 55 ans. Et il a deux avantages. Le premier, c'est qu'il se garde au frigidaire. Hein. C'est pas comme les vaccins ARN qui ont besoin de beaucoup de froid. Et le deuxième avantage qui est très intéressant, c'est que c'est une seule injection. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire de rappel. Donc, pour l'instant, on n'a pas énormément de doses. On a reçu 200 000 doses. Donc, c'est les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes qui peuvent le faire. Donc, ça a débuté. Et on est heureux d'avoir ce vaccin qui va permettre en plus pour des populations qui sont plus loin des soins de pouvoir bénéficier d'un vaccin. C'est plus simple quand il y a une seule injection quand même.
Officiellement, Sophie Végu, à partir de quand les moins de 50 ans pourront se faire vacciner, même si on sait qu'il y en a certains qui ont réussi à se faire vacciner actuellement ?
Alors, pour l'instant, donc c'est tous les 55 ans. On sait qu'à partir de mi-mai, ça va être tous les plus de 50 ans. Et alors, pour moi, je n'ai pas de date. Je ne peux pas vous dire quand tous les moins de 50 ans pourront se faire vacciner. En tout cas, on pense que ça sera avant l'été. Mais dès à présent, il y a déjà beaucoup de gens qui ont moins de 50 ans, les gens qui ont des maladies importantes, les professionnels de santé. Et il y a une population qui est importante, c'est les femmes enceintes. On en a pas parlé, mais les femmes enceintes, en ce moment, il y a pas mal de femmes enceintes en réanimation, donc ça peut vraiment être un problème pour la mère et pour le bébé à venir. Donc voilà, c'est une population, il faut vraiment qu'elles en parlent avec leur médecin, leur sage-femme, la vaccination est importante pour elles aussi. Donc il y a déjà quand même une population importante de moins de 50 ans qui peut bénéficier de la vaccination. On sait que maintenant les professionnels de santé ils le font de plus en plus, hein. Donc ça c'est très réconfortant parce que moi j'espère que ça va vraiment donner confiance aux gens qui hésitent de voir que leurs professionnels de santé ils sont vaccinés. Voilà. Donc on sait qu'en France c'est un calendrier qui se déroule, mais bon en ce moment ça avance de plus en plus. Là aujourd'hui on va arriver à 15 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose. Donc c'est quand même une étape, une belle étape.
Sophie Figueux, peut-on de nouveau contracter le Covid-19 même après avoir été vacciné ? On a évoqué certains cas hein, ces dernières semaines.
Alors, comme disait mon collègue, effectivement, il y a quelques cas. Alors, on sait en particulier que les gens qui ont une mauvaise immunité, c'est-à-dire ça peut être des gens très âgés ou des gens qui ont des maladies, des traitements, des chimios, etc., développent moins l'immunité. Donc, on pense que dès à présent en France, les gens immunodéprimés, on va leur faire une troisième injection parce qu'on voit qu'ils ont plus de mal à fabriquer des anticorps et donc il y a besoin d'une troisième injection et peut-être, mais ça c'est l'avenir qui nous dira, peut-être que tous les gens vaccinés auront besoin ensuite d'une autre injection parce qu'on ne sait pas encore combien de temps ça va durer l'immunité que les vaccins donnent. Donc effectivement, on peut quand même l'attraper, c'est quand même pas n'importe qui l'attrape, mais ça justifie de continuer quand même à faire les gestes barrières et être prudent. On sait que les vaccins, ils protègent à 80-90%, mais c'est pas 100% quand même.
Oui. Ce n'est pas 100%, docteur Sayavé Gnoumou, mais est-ce que c'est quand même suffisamment efficace contre les variants dont on a évoqué, les variants brésiliens, sud-africains et indiens?
Alors, apparemment, les vaccins sont assez efficaces pour protéger l'individu contre les complications. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir le virus, de ne pas sentir de signes, mais pouvoir le transmettre. Mais ils sont efficaces là-dessus. Pour le variant indien, on ne sait pas trop. Parce que le variant indien est assez spécial. C'est une combinaison entre le sud-africain et le brésilien. Il arrive à rentrer dans notre cellule en se faisant ami avec nos protéines de surface. Il arrive à changer des séquences pour rentrer dans la cellule et il arrive même à se faire incorporer dans notre cellule. Donc il contourne tous les moyens qu'on a mis en place pour ça. Et on s'est rendu compte aussi qu'il, à son niveau, au niveau des vaccins, lorsque nous avons créé nos propres anticorps ou par nous-mêmes ou par des vaccins, il arrive que lui, il est en mesure d'empêcher ses anticorps de s'accrocher à lui. Donc, ça veut dire qu'il pourrait être résistant à certains vaccins. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas trop, mais ça peut l'être.
Merci, nous allons terminer sur cela. Merci beaucoup. Cette émission a été préparée par Nadir Djenad. Merci à vous, chers invités. Merci à vous, Sophie Fégueux, médecin infectiologue chargée d'expertise et de projet sur les risques infectieux à Santé publique France. Merci, docteur Sayavé Gnoumou, d'avoir fait le déplacement. Je rappelle que vous êtes chirurgien, expert de l'Union africaine en télémédecine et président du conseil médical de la société Nazunki, qui s'occupe de la prise en charge médicale à l'international. Et merci également à vous, docteur Anou Marin, de vous être rendu disponible depuis Abidjan, médecin et directeur de l'espace médical La Pyramide à Abidjan. Merci à tous les trois. Vous pourrez télécharger cette émission sur les réseaux d'Africa Radio dans quelques heures. C'est la pause, on se retrouve juste après pour Ambiance Africa. Il y a l'info également, nous prendrons la direction de BBC Afrique pour retrouver nos collègues pour l'info. Ne bougez pas.